journal de Christelle Rebière. Bonjour.
Bonjour à tous. Le droit à l'oubli, oublié pour les malades du cancer. Emmanuel Macron avait promis de le réduire de 10 à 5 ans et c'est le Sénat qui tente aujourd'hui de l'imposer. Happy Days en Angleterre, les masques tombent dès aujourd'hui ainsi que les restrictions face au Covid. Le Danemark suivra le 1er février. En France, on se croirait dans le monde d'avant. Mobilisation générale pour les salaires avec grève et cortège. Le Covid, la campagne, le bilan d'Emmanuel Macron, vous en parlerez à 8h20 dans le grand entretien, Nicolas.
Avec Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Vous pourrez dialoguer avec lui, réagir à ses propos. Le standard est ouvert, vous attend 01 45 24 7000.
Dans ce journal, un tract des Brigades Rouges mis aux enchères en Italie, comme si c'était une œuvre d'art. Elle tape l'incruste, les algues vertes continuent de polluer la côte bretonne dans les Côtes d'Armor. Et puis nous passerons à table. Un bon steak à l'heure du petit déjeuner, saignant ou à point. L'essentiel, c'est que vous saurez désormais d'où il vient.
France Inter.
Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, aimait à dire Jacques Chirac. Cette promesse-là avait été faite en 2017 par un candidat devenu président de la République. Emmanuel Macron s'était engagé à faire passer le droit à l'oubli pour les malades atteints d'un cancer de 10 à 5 ans. C'est essentiel, par exemple, pour pouvoir acheter une maison ou un appartement. Hier soir, le Sénat a voté cette mesure en séance, mais l'Assemblée l'avait rejetée en première lecture. La commission mixte paritaire devra trancher dans les prochains jours et les malades du cancer n'ont pas l'intention de se faire oublier. Véronique Julia.
Céline Lisraouk, c'est la fondatrice de Rose Up, une association de patientes atteintes de cancer du sein. Elle vient d'en quitter la direction, mais pendant des années, le droit à l'oubli a été son combat, marqué par une première victoire, puisqu'en 2016, elle a obtenu que 10 ans après la fin des traitements, un ancien malade n'ait plus à dire à son assureur qu'il a eu un cancer. Forte de ce premier succès, elle voulait aller plus loin et ramener ce délai à 5 ans, et elle avait pour cela des arguments solides.
En fait, à 5 ans, la plupart des gens, ils sont guéris. En plus, la plupart des femmes qui ont ces problématiques d'emprunt, c'est des femmes qui ont des cancers qu'elles ont jeunes, et typiquement le cancer des femmes jeunes, c'est le cancer du sein. Le taux global de survie de cancer du sein, il est de plus de 88%.
En 2017, Emmanuel Macron avait dit oui au raccourcissement du délai de 10 à 5 ans, ça figure noir sur blanc sur son programme de campagne. 5 ans plus tard, ce n'est pas La République en marche, mais l'opposition qui a défendu cette mesure. Mais la balle est encore dans le camp du chef de l'État.
C'est un combat sociétal, c'est quand même un sujet de campagne aussi, parce que les malades de cancer, c'est 4 millions de personnes. C'est la volonté politique d'Emmanuel Macron de tenir sa promesse.
Si la promesse part aux oubliettes, explique Céline Lisraoux, les malades sauront le rappeler au chef de l'État dans la course à la présidentielle. D'autant qu'en tant que présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse a su les entendre. La région aide en effet depuis quelque temps les anciens malades du cancer à payer les surprimes que leur imposent les assureurs.
France Inter, il est 8h03. Emmanuel Macron en a envie, Christelle, il ne cesse de le dire. Mais il attend toujours le juste moment pour annoncer sa candidature.
Et finalement, c'est le Covid qui donne le tempo. 430 000 cas positifs hier encore, 3 000 personnes de plus à l'hôpital par rapport à la semaine dernière. Le calendrier de levée des restrictions sera tenu dès mercredi prochain avec la fin du télétravail et des jauges. Mais pour son calendrier, à lui, il est plutôt urgent d'attendre, Maxence Lambrecq.
L'Élysée n'est pas pressée, la campagne n'a pas commencé. Voilà ce qu'on entend dans la majorité. Les Français continuent de jongler entre les autotests et les classes fermées. Il n'y a aucune urgence, assure un poids lourd de la Macronie.
Nous ne sommes pas encore au pic.
Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, hier.
Dans un certain nombre de régions, ça continue à monter. Ce sont les régions qui avaient été frappées par la vague Omicron le plus tard.
Emmanuel Macron va donc attendre ce fameux pic. Et après, les Français vont-ils vouloir se débarrasser de ces gens qui ont pendant 2 ans restreint leur liberté, s'interroge un acteur de la campagne. Au Modem, François Bayrou s'attend à une période intense, difficile. On ne mesure pas encore les conséquences dans l'opinion. Attention, Giscard 81, il a attendu, trop sûr de lui. Il faut rentrer dans le match, estime un conseiller ministériel. Cet entre-deux n'est pas bon. Beaucoup ont des fourmis dans les jambes, mais l'entourage du président se veut rassurant. Rien ne prend, aucun adversaire ne nous atteint. Ils sont juste en train de griller des idées et de l'énergie. Et lui, qui veut porter un message positif, plein d'espérance, se doit d'attendre un moment plus propice. Date limite, le 4 mars, 18h, quand la collecte des parrainages sera terminée au Conseil constitutionnel.
Maxence Lambrecq, c'est bien de la politique que fait Boris Johnson outre-Manche avec la gestion du Covid. Embourbé dans ses fêtes à Downing Street, il offre à partir d'aujourd'hui un quasi-retour à la normale. Les masques ne sont plus obligatoires, fin du télétravail imposé et plus de passes sanitaires dans les boîtes de nuit ou encore dans les salles de concert. Reportage à Londres, Richard Place.
Samantha porte son masque dans la rue, ça n'a pourtant jamais été obligatoire ici. On la remarque à l'arrêt de bus, légèrement en retrait par rapport aux autres. Cette levée des restrictions l'inquiète.
Je pense que c'est trop tôt parce que le Covid est encore là. Je me suis demandé pourquoi c'était si rapide. En fait, c'est parce que Boris Johnson veut se débarrasser de tout ça. Il en a besoin politiquement, mais c'est une erreur. Je vais devoir retourner au bureau et plus personne ne respecte les distances. Ce n'est vraiment pas une bonne idée.
Dans la capitale anglaise, il y a déjà du laisser-aller depuis plusieurs semaines. Le masque n'est pas toujours porté là où il devrait pourtant l'être. Francis dit se conformer strictement aux règles depuis le début. Mais pour lui, aujourd'hui, c'est un soulagement.
Il y a une fatigue du masque et tout le monde en a marre des restrictions. Nous sommes des adultes, faisons confiance à notre libre arbitre. On n'est pas dans un état policier. Chacun va prendre ses responsabilités et adapter son comportement à chaque situation. Ça va être intéressant de voir comment ça se passe.
Francis ne croit pas en la fin de la pandémie. Ou plutôt, dit-il, il n'en sait rien. Alors si les chiffres repartent à la hausse, les restrictions reviendront et peut-être même un confinement, il s'y plierait, conclut-il, en haussant les épaules. Londres, Richard Place, France Inter.
Le Danemark, le pays d'Europe le plus touché par le Covid, va lever, lui, ses restrictions à partir du 1er février. Mobilisation générale pour une hausse des salaires avec grève et cortège. À l'appel de la CGT, FO, la FSU est solidaire pour le privé et le public pour contrer l'inflation. C'est l'occasion de regarder de plus près les propositions des candidats en faveur des enseignants, car ils seront nombreux aujourd'hui dans les cortèges. Un coup de pouce fait consensus, mais pas dans les mêmes proportions, Anne Souhaitemont.
Anne Hidalgo en avait fait un marqueur. Fini le doublement du salaire des profs dans le programme définitif de la socialiste, mais un objectif, porter leur rémunération au niveau de celui des cadres. L'écologiste Yannick Jadot veut lui atteindre la moyenne de l'OCDE quand Jean-Luc Mélenchon propose une hausse de 15% de leur traitement pour rattraper le gel du point d'indice, 30% pour Fabien Roussel. Revaloriser les salaires, dans la majorité, on insiste, le chantier a été lancé par le Grenelle de l'éducation. En 2024, le salaire moyen de 2000 euros net par mois sera atteint. Dans les cartons du futur candidat, une valorisation supplémentaire via des tâches spécifiques, fonction de l'investissement de l'enseignant. Logique inverse, chez Marine Le Pen, la candidate du RN souhaite limiter le temps de travail des professeurs, mais augmenter leur salaire de base, notamment en début de carrière, les jeunes profs, dans le viseur aussi de la candidate LR Valérie Pécresse. Quid d'Éric Zemmour ? Aucun chiffre, mais la volonté pour le candidat d'instaurer des primes et une progression des salaires au mérite.
Et parmi les candidats, Valérie Pécresse revoit sa copie. Elle proposait une hausse de 10% pour tous les salaires du privé jusqu'à 2,2 fois le SMIC. Face aux critiques du patronat, elle envisage seulement une première baisse de cotisation salariale de 2,4% cet été. La rénovation énergétique pour gagner en pouvoir d'achat, près de 650 000 aides MaPrimeRénov ont été accordées par l'État l'année dernière. C'est 4 fois et demi plus qu'en 2020. Le dispositif vise à aider les particuliers à financer l'isolation, la ventilation ou encore le chauffage de leur logement. En savoir un peu plus sur ce qu'on a dans nos assiettes. À partir du 1er mars, les restaurants et les cantines qui offrent de la viande à leur menu seront tenus d'indiquer sa provenance. C'était déjà le cas pour le bœuf depuis la crise de la vache folle, mais toutes les autres viandes sont désormais concernées. C'est aussi une façon de consommer français. Une mesure plutôt bien accueillie par les restaurateurs lyonnais. Mathilde Imberti.
Attablé autour d'un burger, un groupe d'amis, la vingtaine, commente positivement la mesure. Elle va les inciter à faire encore plus attention.
Pour le porc et tout ça, on a moins tendance à regarder, mais effectivement, si c'est marqué, ben on regardera et ça aura de l'importance.
Ah oui, évidemment, c'est mieux de consommer français parce que ça vient de moins loin. Donc.
Privilégier la filière française, c'est fondamental, estime une autre consommatrice.
C'est très bien qu'on puisse savoir d'où provient la viande qu'on mange dans nos assiettes. Très important. Et qu'on soutienne nos éleveurs.
Au Hard Rock Café, le propriétaire Thibaut Salva n'a pas attendu les injonctions pour jouer la transparence. Toutes ses viandes sont françaises, c'est inscrit en tout petit en bas du menu et il assume le coût supplémentaire, notamment sur la volaille.
Quand on compare à de la viande de qualité équivalente à l'étranger, ça coûte pas plus cher. Quand on compare à de la viande d'élevage en chaîne ou en masse, oui, ça coûte plus cher. On sait qu'en France, on a plutôt un élevage de qualité et respectueux, donc c'est montré qu'on a des produits de qualité et de deux, voilà, qu'on ne fasse pas traverser la terre à un poulet qui viendrait du Brésil ou autre.
L'obligation d'afficher la provenance s'appliquera aussi aux cantines scolaires et à la restauration collective, où plus de la moitié des viandes consommées sont importées, d'après le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Il est 8h10, on a du mal à y croire, Christelle, en Italie, la propagande des brigades rouges se vante aux enchères.
Oui, l'organisation terroriste d'extrême gauche a fait multiplier les assassinats et les enlèvements en Italie dans les années 70. Une maison de vente privée vend aujourd'hui un tract revendiquant l'enlèvement d'Aldo Moro, l'ancien président du Conseil, un pan de l'histoire tragique de l'Italie vendu comme une œuvre d'art. À Rome, Bruce de Galzin.
Nous sommes le 16 mars 1978, flash spécial de la RAI.
Buongiorno. Il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro.
Le journaliste annonce l'enlèvement du président de la Démocratie Chrétienne Aldo Moro à 9h10 par un commando terroriste. Dès le lendemain, les brigades rouges distribuent un tract de propagande dans les rues, les écoles, les usines. L'organisation terroriste d'extrême gauche revendique l'enlèvement d'Aldo Moro, qui sera retrouvé mort 55 jours plus tard dans le coffre d'une 4L. Le président du syndicat des journalistes romains a tenté de suspendre la vente de ce tract. Nombre d'historiens estiment que l'on ne peut pas tourner ainsi la page des années de plomb. Les experts du ministère de la Culture ont eux vérifié qu'il ne s'agissait pas d'un exemplaire volé à l'État, explique le directeur de la maison de vente, Giuseppe Bertolami.
Les membres d'une commission ministérielle sont venus chez nous pour analyser le tract qui est probablement une troisième ou quatrième édition du communiqué. C'est donc une autre copie. Et de nombreux exemplaires originaux sont déjà conservés dans les archives d'État. En tant que maison de vente, nous faisons simplement notre travail. Nous ne spéculons pas.
Le prix de départ était fixé à 600 euros. L'enchère la plus haute a déjà atteint 13 000 euros. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Toujours la surenchère à propos de l'Ukraine. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré à son homologue chinois qu'une agression de la Russie contre l'Ukraine menacerait la sécurité et l'économie mondiale. Pékin défend Moscou et ce qu'il appelle des préoccupations raisonnables de la Russie pour sa sécurité. Éric Zemmour, à nouveau devant la justice, il comparaît cet après-midi devant le tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon suite à la publication de son clip de campagne le 30 novembre dernier, une vidéo d'une dizaine de minutes dans laquelle il annonce sa candidature à l'élection présidentielle en mode appel du 18 juin. Pour illustrer son discours, il avait utilisé notamment des extraits de films sans autorisation. Il résiste encore et toujours, et de mémoire de Breton, on n'avait jamais vu ça. Ça fait près de 7 mois que la plage de l'hôtellerie est fermée à Ilion, dans les Côtes d'Armor. Les algues vertes qui peuvent dégager des gaz toxiques s'incrustent et découragent les touristes. Alors elles disparaissent normalement à l'automne, mais pas cette fois. Les associations environnementales s'impatientent. L'État tente de montrer sa bonne volonté. Reportage de Delphine Evenou dans la baie de Saint-Brieuc.
Si vents et marées ont un peu nettoyé la plage ces derniers jours, cachées sous le sable, les algues sont toujours là.
Ça forme des vasières.
Annie Le Guillou, coprésidente de l'association Alto Marée Verte.
Quand vous mettez les bottes dedans, vous voyez les bulles de gaz qui crèvent la surface. On n'avait jamais eu des échouages importants d'algues vertes jusque début janvier. Sans ramassage, tout ça pourrit, tout ça dégage une odeur insupportable. Des gens qui habitent à proximité, sur le littoral, peuvent ressentir des maux de tête ou des nausées.
Tout s'est joué au printemps dernier, explique Sylvain Ballu du Centre d'études et de valorisation des algues.
On a complètement levé tout ce qui peut normalement limiter la prolifération. Au printemps, normalement, c'est plutôt la lumière qui monte. Enfin, en fin d'hiver, c'est plutôt la lumière. Là, il y en avait. Normalement, il n'y a pas d'algues. En fin d'hiver, là, il y en avait. Et puis ensuite, on a eu des énormes pluies. Si vous avez 10 fois plus d'eau qui passe dans les cours d'eau, ça fait des apports de nitrates qui sont très élevés.
Une météo venue amplifier l'impact de l'activité humaine, agricole, surtout la fuite de nitrates. Pour les réduire, l'État prépare un nouveau plan algues vertes après s'être fait taper sur les doigts par la Cour des comptes, Étienne Guillet, sous-préfet.
Il y a un doublement de l'enveloppe que l'État attribue chaque année, de façon de 5 millions à 10 millions d'euros par an sur ce plan algues vertes. Notre ambition, c'est d'aller toucher vraiment un maximum d'agriculteurs sur l'ensemble de ces bassins algues vertes.
Un accompagnement cosmétique quand c'est une révolution de l'élevage qui est urgente, déplorent déjà les associations.
Et vous pouvez retrouver tout un dossier sur ces algues vertes sur notre site franceinter.fr. Changer de nom plus facilement, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi permettant à chacun d'entre nous d'abandonner son nom de naissance pour prendre celui de l'autre parent ou bien l'ajouter. Une simple démarche en mairie suffirait. Beaucoup de personnes se retrouvaient jusqu'à présent embarquées dans un véritable parcours du combattant alors qu'elles souhaitaient se débarrasser du nom d'un parent violent ou d'un parent absent. Ils portent fièrement leur nom, eux, et seront les emblèmes de la France. Dans 8 jours, à l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, la skieuse Tessa Worley et le spécialiste du freestyle Kevin Roland seront les porte-drapeaux de l'équipe nationale. Et c'est aussi Une belle histoire de résilience, Jérôme Val.
Être qualifié pour les Jeux Olympiques, c'est déjà une victoire pour Kevin Roland. En avril 2019, un grave accident lors d'une tentative de record du saut à ski le plus haut du monde a failli lui coûter la vie. Des jours de coma, un retour à la compétition il y a un an seulement, le voilà désormais à Pékin en lice pour une médaille et en plus, porte-drapeau pour la France, une joie intense, explique Kevin Roland.
Symboliquement, c'est assez énorme. C'est vrai qu'il y a 2 ans et demi, j'étais allongé sur un lit d'hôpital et il y a des médecins qui sont venus me voir qui m'ont dit « Monsieur, il va falloir penser à faire quelque chose d'autre que du ski ». Et aujourd'hui, je suis présent, porte-drapeau de la France aux Jeux Olympiques, rendez-vous compte. C'est assez hallucinant.
Pour l'accompagner dans le nid d'oiseau de Pékin, le stade où aura lieu la cérémonie d'ouverture, une autre candidate à la médaille, Tessa Worley, spécialiste du slalom. Pour ses 3e Jeux, la skieuse a bien l'intention de partager sa longue expérience avec le reste de la délégation.
On a une délégation qui est incroyable avec déjà des athlètes avec un énorme palmarès. Donc je pense qu'on va également énormément se nourrir de l'expérience de tous.
La skieuse du Grand Bornand sera la 6e femme à porter le drapeau bleu-blanc-rouge au JO d'hiver. Kevin Roland, lui, est le premier skieur freestyle à tenir ce rôle.
Jérôme Val, après les barjots, les bronzés, les indestructibles, le journal L'Équipe donne un nouveau surnom aux handballeurs tricolores, les braqueurs.
C'est pas mal.
Eh ben oui, mais c'est bien un braquage en règle qu'ils se sont livrés hier soir face au Danemark. Ils ont gagné sur le fil 30 à 29. Ils retrouveront demain la Suède en demi-finale de l'Euro.
Merci Christelle Rebière, on retrouve la bronzée Marie-Pierre Planchon pour la météo.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire, belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Enfin, on attendra un peu le soleil. Pour l'instant, Marie-Pierre, c'est plutôt attention au brouillard.
Ah oui, Nicolas, une nouvelle fois fréquent hein, au nord de la Loire et sur le centre-est et même givrant sur le Val-de-Loire, le Val-de-Saône lyonnais. Le temps est donc couvert hein, le long des côtes de la Manche. Et petite nouveauté, on a une perturbation qui rentre car l'anticyclone a une petite faiblesse. Et de la Somme au Pas-de-Calais, on a même quelques bruines jusqu'aux frontières du nord. En revanche, comme les jours précédents, vous allez voir le soleil se lever au sud de la Loire avec toujours des grisailles autour de la Garonne. À Mercure. Bien bas, Nicolas, moins 10 à Champagnole, dans le Jura, moins 8 dans la Creuse ou dans l'Aveyron ou en Haute-Loire, moins 6 à Périgueux, moins 5 à Albi, où il gèle d'ailleurs depuis 17 jours. Il fait moins 4 à Épinal, moins 3 à Marseille, 0 à Quimper et 3 à Paris.
Et la perturbation va gagner du terrain cet après-midi.
Oui, c'est le changement de la journée avec des pluies au nord de la Seine et du Cotentin aux Ardennes. Et si le ciel restera bien gris des Charentes à l'Alsace, en revanche, il fera moins froid car cette perturbation apporte un vent d'ouest plus humide, océanique et chasse un peu la pollution. Et au sud de la Loire, donc même programme, soleil et ciel bleu, avec 0 seulement à Bourg-en-Bresse, 1 à Nevers ou Besançon, 3 à Metz et Lyon, 6 à Toulouse et Nantes. On aura 7 à Paris, 9 à Lille, 10 à Brest, 13 à Nice, 14 à Bastia, 15 à Aix-en-Provence et même 17 à Perpignan.
Merci Marie-Pierre. France Inter, 8h18.